بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité de démarrer cette nouvelle année islamique, cette année 1434. Et le fait de vivre une année islamique ou de vivre quelques jours, ne serait-ce du dunya, de notre vie, en bonne santé, avec la foi, avec la possibilité de venir à la masjid, le tawfiq d'Allah, le tawfiq, l'acceptation de la part d'Allah pour venir faire les 5 salats, et de ne pas être dépendant de quiconque, c'est-à-dire avoir la siha, la santé, les grands ni'amats qu'Allah a accordés, c'est une chance, c'est une ouverture de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman doit toujours se montrer reconnaissant pour tous les bienfaits qu'Allah azza wa jalla lui a accordés. Allah ta'ala dit au Coran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si on essaie de compter, si on essaie d'énumérer les bienfaits qu'Allah nous a accordés, on ne pourra jamais les compter. Il y a des fois une personne se sent triste, une personne se sent atteinte, une personne se sent diminuée, une personne se sent éprouvée, mais en fait, il ne perçoit que ce qui ne marche pas. L'être humain est fait de la sorte qu'on ne voit uniquement ce qui nous cause un peu de problème, qui nous cause du tort. Mais tout ce qui nous permet d'avoir une certaine stabilité, une tranquillité, c'est-à-dire tous les bienfaits qui sont derrière nous, qui nous supportent et qui nous accompagnent depuis des années et des années, ça, l'être humain ne voit pas. Et le fait de faire une rétrospective en début d'année ou à la fin d'une année et de voir un petit peu qu'est-ce qu'Allah m'a accordé et quelle est la situation des autres frères musulmans dans différents pays, dans différentes régions, par rapport à la pauvreté, par rapport à l'absence de sécurité, par rapport au manque de nourriture parfois, par rapport aux problèmes de santé, par rapport aux problèmes de la famille, aux problèmes, etc., etc. Et on se rend compte que tout qu'on fait, alhamdoulilah, ben, on a pas mal de choses. Il y a juste un petit truc là, une petite douleur par-ci, un petit problème par-là, un petit détail à régler. Et là, on se rend compte qu'Allah Azza wa Jalla nous a comblé énormément de bienfaits. Lorsqu'une année commence dans d'autres communautés, chez les Nasara par exemple, ou dans d'autres communautés, ils ont pour habitude de festoyer. Ils ont l'habitude de festoyer, de faire une fête, un jour de l'an, ou alors des trucs comme ça, on invite les gens, on mange, on fait la fête. Alors, est-ce que le mu'min fête le début d'année? Non. Le prophète alayhi salat wa salam n'a jamais fêté le début d'une année, ni le sahaba, ni les tabi'in, ni les générations des pieux prédécesseurs qui sont venus après eux. Quand un mu'min démarre une nouvelle année, il démarre avec beaucoup d'espoir. Il démarre avec beaucoup d'espoir et surtout des résolutions. Les résolutions, c'est des intentions fermes, niyat sincères, que cette année, il demande à Allah, il fait le niyat de son cœur, et deuxièmement, il demande à Allah al-aoun wa al-tawfiq, il demande à Allah l'aide, et qu'Allah l'accepte d'exécuter, de mettre en pratique les choses qu'il aimerait bien faire. Et c'est ça qui est extrêmement important. Ça, il faut souligner, il faut que chaque année qui passe, c'est une année qui nous rapproche d'Allah. Il faut que chaque année, sachant que chaque année qui passe, c'est une année qui nous rapproche effectivement d'Allah, mais dans le sens de la mort, dans le sens du retour vers Allah. وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Craignez ce jour où vous retournerez auprès d'Allah, verset du Coran. Donc, effectivement, qu'on le veuille ou non, chaque jour qui passe, chaque année qui passe, c'est un laps de temps en moins. Dans le temps qu'Allah a accordé à chaque être humain, c'est comme si vous avez un grand chapelet avec, je ne sais pas, 60, 70 000, 80, 100 000 grains, et chaque seconde vous lâchez un. Chaque seconde, chaque minute vous lâchez un, deux ou trois. C'est-à-dire que chaque minute, chaque seconde qui passe, il y a de moins en moins de grains dans le chapelet jusqu'à ce qu'il n'y en aura plus. C'est les jours qui passent, c'est les années qui passent. Ce qu'il ne faut surtout pas adopter comme attitude, c'est al-rafla. Ça, c'est la pire des choses. Un cœur rafil. Un cœur rafil, c'est quoi? C'est un cœur insouciant. C'est quelqu'un qui vit au jour le jour. C'est quelqu'un qui dit, nous vivons comme l'arrivée. On multiplie, on cumule les habitudes, nos petites habitudes, nos manières, nos traditions, nos machins, et on ne réfléchit pas à long terme. Un musulman éclairé, un musulman intelligent, c'est quelqu'un qui voit loin. C'est pas quelqu'un qui se soucie uniquement de la crise économique, qui se soucie des problèmes de chômage, qui se soucie qui va gagner telle élection, qui sera tel élu, telle chose, qu'est-ce qu'il y a comme maladie, quel médicament je dois prendre, ça c'est des soucis de dunya. Mais ça c'est pas grave ça. Parce que tout ce qui a trait au dunya, c'est muqaddar. C'est prêt,
prédestiné. Tout est écrit dans le taqdir. Ce qui fait que le mu'min, normalement, son cœur là, il doit le consacrer, ses pensées, il doit le consacrer, ses efforts, sa force physique, son bien, son temps. Et si on a encore cette chance, ça, Shabab, sa jeunesse, on doit le consacrer pour Allah. On doit le consacrer pour ce moment fatidique, ce moment où on retourne auprès d'Allah. Le moment où le musulman va retourner auprès d'Allah, c'est-à-dire lorsqu'il va quitter ce dunya, il va quitter le monde du visible pour retourner vers son créateur. Parce que chaque personne, que le nafsini dhaiqatu, quoi, elle meurt. Chaque âme goûte à la mort. Ça, ça doit être notre fikar. Ça doit être notre préoccupation principale et non pas les choses du dunya. Parce que comme on l'a dit, les choses du dunya, c'est muqaddar, c'est prédestiné. Allah a déjà écrit qui c'est qui va manger dans sa vie 3 tonnes de riz, 2 tonnes de viande, 1 tonne de poisson. Celui qui va manger, moi, tout ça, c'est écrit dans le taqdir. Ce qui fait que le mu'min, normalement, il doit avoir un cœur apaisé. Pourquoi un cœur apaisé? Parce que le mu'min n'est jamais atteint de ce qu'on appelle en arabe al-qalaq. Al-qalaq, c'est l'angoisse, c'est le stress, c'est la peur du lendemain. C'est tout ce qui inquiète les gens de la société moderne. Qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qu'on va manger? Quel sera mon salaire? Quelle sera ma situation? Le mu'min, il n'a pas à se soucier de tout ça. Il fait ses efforts, bien sûr, de son travail, etc. Mais il sait que tout est prédestiné par Allah et tout est dans les mains d'Allah. Ce qui fait que le musulman qui développe sa foi, qui développe correctement son iman en Allah, « Alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah »« Ala bidhikrillahi tatma'innul » C'est par la pensée d'Allah que les cœurs s'apaisent. Donc ce musulman qui a dans son cœur la pensée d'Allah en permanence, qui en fait une priorité, il a le cœur apaisé. Parce qu'il sait que son cœur est avec Allah et que quand on a la confiance totale en Allah, Allah agit avec nous comme on conçoit le pouvoir, la manière d'agir dans notre créateur. Si on sait que je me concentre pour le dîn d'Allah, pour ma religion, pour mon iman, pour ma foi, mes bonnes actions, je fais en sorte de m'éloigner des péchés au mieux tant que je peux. Et le reste, je fais des efforts, je travaille, bien sûr, je fais des efforts d'être humain, mais le reste, c'est dans les mains d'Allah, tout est dans les mains d'Allah. Celui qui s'en remet vraiment à Allah, Allah Ta'ala lui envoie réellement son aide. Celui qui s'en remet vraiment à 100% à Allah, Allah Ta'ala lui vient en aide à 100%. Comme les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, ils avaient une confiance illimitée, inébranlable en Allah, et Allah Ta'ala leur accordait une aide illimitée également. Donc en ce début d'année, nous demandons à Allah Azzawajal de nous accorder la foi complète et une foi qui augmente de jour en jour. Il ne faut surtout pas se dire que je suis musulman depuis ma naissance ou depuis 20 ans, 30 ans, ben ça va, je coule ma petite vie douce, tranquillement en attendant la mort, parce que la foi, elle ne reste jamais stable. Le ulama de l'aqidah dit « Al-imanu yazidu wa yanqus » La foi, elle augmente et elle diminue. La foi augmente avec les bonnes actions et la foi diminue à cause des péchés. Et dans une situation, dans une vie, une personne, soit il accomplit des bonnes actions, soit il fait des péchés, ou alors il vit dans l'insouciance. Et l'insouciance aussi, on peut le considérer comme un péché. Certains, comme le prédécesseur, il dit, par rapport au verset ceux qui avancent, ceux qui reculent, il dit une citation magnifique, il dit que celui qui n'avance pas, ben, il est en train de reculer. C'est-à-dire que celui qui ne fait pas des efforts pour avancer dans sa foi, il ne fait pas du surplace, parce qu'il n'y a pas de surplace de la foi. En fait, on perd en iman. Donc ça, c'est extrêmement important. Demander à Allah de nous donner une foi, un iman qui augmente de jour en jour, d'année en année. Et pour que cette foi augmente, il faut avoir l'intention d'augmenter son iman, demander droit à Allah et faire les actions intermédiaires pour augmenter la foi. Faire l'intention ferme d'être encore plus assidu dans nos bonnes actions, dans nos a'mal salihah. Et quand on parle de iman, de la foi et des bonnes actions, vous savez que dans le Coran, à chaque fois qu'on parle de inna alladhina amanu, tout de suite après ça vient wa'amilu salihat. La foi et les bonnes actions sont indissociables. Il n'y a pas que j'ai la foi et puis le reste est dans le cœur. Là, wallah. Tu as la foi, excellent. Alhamdulillah, ni'ma de la part d'Allah. Mais cette foi-là, elle doit se manifester à travers tes al-jawarih, à travers les membres, à travers chaque action, à travers chaque acte, à travers ta manière de parler, à travers ta manière de marcher dans la rue, à travers ta manière de contrôler tes yeux, de contrôler tes oreilles, contrôler ta langue, contrôler ton cœur, contrôler ta pensée. Tout ça, c'est dalala. C'est des preuves que effectivement il y a la foi de le cœur. Si les actions suivent, c'est qu'effectivement la foi, elle est bien ancrée, elle est là. Si on se dit juste musulman, présent Yomul Jum'a et Ramadan, et le reste de l'année, il n'y a rien, c'est que cette foi-là, elle est trop faible. Elle existe, on ne doute pas de la foi de personne, mais elle est tellement faible que ce iman ne nous permet pas de faire les bonnes actions. Et que ce iman ne nous permet pas de rester éloignés des péchés. Donc on demande à Allah de nous accorder une foi qui augmente. Et pour que cette foi augmente, comme on l'a dit, on doit faire les actions qui augmentent la foi. Et on a dit que la foi et les bonnes actions sont indissociables. Chacun doit essayer de travailler son iman. Travailler son iman en apprenant les croyances, la croyance en Allah correctement, en apprenant les qualités, les sifat de la foi et les actions qui augmentent le iman. Également prendre des résolutions concernant nos a'mal. Et quand on parle des bonnes actions, la priorité des priorités, c'est notre salat. La salat imadu din. La salat, c'est le pilier de la religion. Sans salat, il n'y a pas de iman. Et les muhadithines disent que un musulman, jusqu'à sa mort, doit améliorer sa salat. On doit améliorer notre salat. On ne doit jamais se dire que je fais mes 5 salats par jour, c'est bon, j'ai rempli mon contrat. Là, wallah. La salat, ça doit être un lien entre nous et Allah. La salat doit être un lien entre nous et Allah. Lorsque le prophète alayhi salat wa salam était préoccupé par un problème, ou même quand il y avait un mauvais temps, c'est-à-dire quelles que soient les choses qui préoccupent l'homme, que ce soit extérieur, c'est-à-dire indépendant de nous, météorologie, cyclone, tempête de sable, ou quelque chose qui est propre à nous, problème personnel. Pour exemple, qu'il y avait une tempête, qu'il y avait du vent, il allait à la masjid faire l'ansala. Et pour toutes les choses de la vie, Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-sala, qu'on s'en remette à Allah par la salat. En étant patient et par le biais de la salat. Donc cette salat doit être vraiment quelque chose de vivant de nos cœurs. Et les ulama, ils expliquent comment améliorer leur salat. Bien sûr, en faisant en sorte de lire correctement ce qu'on lit dans la salat, en faisant en sorte de méditer sur le sens de ce qu'on va lire dans la salat pour avoir une meilleure concentration. En faisant le niya également d'être assidu, les 5 prières. Les 5, ne pas en rater une seule, quelle que soit la raison. En faisant l'intention également de faire les 5 salats en congrégation, en jama'at, dans la mesure du possible. De faire le niya également de venir tôt à la masjid, d'être toujours au premier rang. Tout ça, c'est des objectifs à atteindre. Et quand on voit l'étendue hein, de la progression possible dans la salat, on se rend compte qu'effectivement, il y a encore du boulot à faire. Faire l'intention également de venir tôt à la salat, de faire les rawatib, les sunan, les sunnah qu'il y a avant la salat, après la salat. Et puis l'étape suivante, c'est développer son khushu', sa dévotion, sa concentration. Et la concentration, elle vient à partir du moment où on fait peu de péchés. La concentration, elle vient à partir du moment où on prépare la salat. Différence entre quelqu'un qui arrive, hein, qu'Allah nous tawfiq à nous-mêmes qui parlons de le mettre en pratique. Différence entre quelqu'un qui arrive 15 minutes avant, qui fait son wuzu, qui fait 2 rakat, par exemple, tahiyatul masjid, ou les rawatib avant la salat, qui s'assoit, qui fait le dhikrullah, qui lit le Coran et qui attend le imam arrive pour commencer la salat derrière lui. Différent entre cette personne et celui qui arrive le 4e rakat dernier, comme on dit en créole, le kaskou, juste à gagner le dernier rakat, le kaïda. Est-ce que ces deux salats là sont comparables? Là, wallah. Ce sont des piliers, oui ou non? Mais un pilier il est en ciment, béton armé, et l'autre pilier il est en polystyrène. C'est-à-dire que les deux piliers sont là, mais il y a une salat qui sera costaud, une salat qui va faire un véritable lien entre nous. C'est-à-dire, ça c'est la marge de progression. Maintenant, si on peut devenir comme les pieux, les grands mashaïr, les grands comme on dit ici, les bouzouk et tout, c'est en plus de ça, faire le niyad de faire le qiyam ou l'ayl. Ça c'est, subhanallah, nourun ala nour. C'est une personne en plus d'être assidu, ces 5 salats, les rawatib, il peut se réveiller à la nuit. Comme tout le monde le faisait certainement durant le mois de Ramadan, on se réveillait 20-30 minutes avant le suhur, on faisait 2 rakats devant les doigts. Wallahi, celui qui a l'habitude, celui qui prend l'habitude de faire le qiyam ou l'ayl, il devient vraiment un waliyullah, il devient vraiment un proche d'Allah. Et ça faisait partie des clés du succès que le prophète alayhi salatu wassalam avait annoncé aux sahaba arrivés à Medina. 2 choses il avait dit: donner à manger aux gens et prier, wa nasu niyam, prier lorsque les gens dorment. Ça c'est la clé du succès, ça. Parce que prier quand tout le monde prie, ça c'est, on va dire, ça c'est le smic, ça. Ça c'est le RMI, ça c'est l'obligation. On doit le faire, c'est notre devoir. Maintenant, celui qui, lorsque les gens dorment, lui se réveille 3h, 3h30 du matin, fait ses ablutions, il fait la salat seul, sans que personne ne le voit, c'est une relation entre lui et Allah, et quelqu'un qui s'habitue à faire le tahajjud, le qiyam al-layl, il aura la concentration, la dévotion de ce salat. Il y a beaucoup de gens qui demandent, mais comment se concentrer? Je dis qu'en namaz, comment je pense que tes affaires, pas tout, ils grattent. On pense à ci, on pense à ça, on pense à notre travail, on a des soucis. Et je dis que c'est comme si que quand on commence la salat, on a la concentration pour nos problèmes. C'est-à-dire qu'en temps normal, on ne pense pas à nos problèmes. Mais quand on est dans le namaz, c'est comme si que là, tout se concentre. Là, je me rappelle qu'est-ce qu'il y a à faire comme course, quelles sont les tâches ménagères à faire, qu'est-ce que je... Elle dit que dans la salat, je me concentre pour mes problèmes du dunya. N'a'oudhu billah. Mais c'est une réalité. Elle dit, ben, comment faire pour trouver la dévotion, la concentration comme les sahaba? Elle s'est placée la barre un peu haute de dire comme les sahaba, mais une salat correcte, c'est une salat qui se travaille. Et si on travaille le salat par le tahajjud qiyam al-layl, assurément nos salat faraz seront remplies de dévotion, remplie de concentration. Donc, on fait le niya de travailler cette salat et de progresser dans la salat. Maintenant, si quelqu'un a atteint tous ses objectifs, hein, ça c'est un homme pieux, qu'on me donne son nom, alhamdulillah, je reste avec lui. Et si on a progressé de la sorte, on essaie d'apprendre un peu les ajza du Qur'an par cœur. On essaie d'apprendre quelques versets tous les jours pour pouvoir le lire dans nos salat également. Plus on peut lire, plus ce sera profitable pour nous. Donc, l'intention également, résolution en ce début d'année, de travailler dans le salat et de travailler maintenant, c'est un exemple, on s'arrêtera, nos relations avec les gens. Ça, c'est extrêmement important et ça, c'est quelque chose qui peut casser notre a'mal, nos a'mal. Si une personne est régulière dans ses ibadah, dans ses actes d'adoration, salat, sadaqa, lecture du Coran, dhikrullah, du'a, mais que de l'autre côté, ses relations avec les gens ne sont pas bonnes. Si on a rompu les relations avec des gens de la famille, ou même avec des amis, on ne parle plus. Le prophète me dit que un mu'min qui ne parle plus à son prochain, son frère, au-delà de 3 jours et 3 nuits, les actions ne montent plus au ciel. Certaines versions disent que tel jour, Allah ordonne aux anges d'effacer, de pardonner les péchés de chaque être humain, à l'exception, parmi les exceptions, il y a les gens qui ne se parlent plus. Les gens qui sont en froid, comme on dit, les gens qui ont rompu les relations. Donc ça, c'est un gros problème. Et le problème est encore plus gros quand la rupture a lieu au sein de la famille. Et très souvent, la rupture a lieu au sein de la famille. Et si on analyse le problème, on revient au début. C'est que nos cœurs sont attachés avec les biens. Notre souci, notre fika, c'est les biens. Très souvent, quand on se froisse, c'est par rapport aux biens, par rapport à tout ça, des choses comme ça. Mais si on comprenait que tout ça, c'est futilité, et tout ça, c'est dans les mains d'Allah, et on a un objectif, on ne se laisserait pas disperser, on ne se laisserait pas distraire par Shaitan pour des futilités. Mais le problème est grave, parce que rompre les relations avec quelqu'un de la 3 jours, 3 nuits, nos amal ne montent plus. Donc quand on commence cette année, on se dit, écoute, si ça fait longtemps que je ne parle plus avec Mohammed et Kisra et Abdullah, c'est le moment de faire la paix, d'en finir, parce que je suis en train de me causer du tort à moi-même. Il y a des fois, on se dit que Midani a bon leçon. Trouve Ali, fais pas Ali Salam. Dresse Ali, dresse son code. Fais 100 Ali, que mais pas content. C'est-à-dire, na'oudh billah, ça c'est Shaitan, il est aux anges. Shaitan est aux anges, c'est un paradoxe. Shaitan est content. Pour lui, il a pu vous faire intégrer le fait que je ne lui parle plus, je vais le casser dans son orgueil. Je vais lui montrer c'est qui dirige ici, c'est qui le chef. Que c'est pas toi, c'est moi, moi aussi. Là, wallah, ça c'est waswasa. Ça c'est insufflation de shaitan. Et de l'autre côté, il vous fait croire que vous êtes un bon petit musulman, régulier, son petit bonnet, son barbe, tranquille. Mais de l'autre côté, il fait en sorte que vos actions là, ils restent au niveau du toit, la masjid du Moufia, ils ne montent pas au ciel. Les actions ne montent pas au ciel, pourquoi? Parce qu'on a cassé les relations avec quelqu'un. Il y a des hadiths, on ne va pas donner tous les détails de la religion. Hadith Qudsi, Allah Ta'ala, il explique comment il a créé le sadatul rahim, le lien, les liens familiaux. Allah l'a créé. Il dit que celui qui rompt ça, Allah rompt cette personne. Allah détruit cette personne. Donc, en ce début d'année, on fait l'intention qu'on va essayer de voir un petit peu avec qui on s'est embrouillé dans l'année. On demande tawba, on demande maf, et puis, c'est-à-dire on demande pardon à la personne, et on essaie d'aller, de redémarrer sur de bonnes bases. Maintenant, si on avait un exemple, on s'était embrouillé avec un beau-frère, ou un cousin, ou un tonton, un truc comme ça, on demande maf, on discute. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on redevient grand copain avec lui comme avant. Si quelqu'un vous a fait du tort, bon, vous faites ça là, vous gardez les relations, mais la relation elle est limitée aussi. On n'est pas obligé d'être les meilleurs amis avec tout le monde. On choisit des gens hein, qui nous sont profitables, mais le plus important, c'est de ne pas rompre la relation avec quelqu'un. Genre, quand on le voit, on ne fait pas salam, ou on traverse chemin, ou on fait en sorte de l'éviter, ça c'est grave. Donc on essaie de travailler nos ibadah, on n'a cité qu'un exemple, la salah, mais c'est le plus important, on essaie de travailler également, inshallah, nos relations avec les gens. Hein, vous savez, dans notre vie, parfois, on voit les gens, hein, comment ils évoluent, hein, comment les gens, hein, ils progressent de leur foi également. Moi, j'ai encore une image en tête, hein, il y a un jeune, alhamdoulilah, qui assiste un peu souvent au programme. Et depuis le mois de Ramadan, dans une mosquée de Saint-Denis, cette personne, je le vois tous les jours. tous les jours, à l'exception du dimanche, après la salat al-dhahr, cette personne lit le Coran, jusqu'à ce que, subhanallah, moi-même je quitte un masjid parfois 2h moins 15, 2h moins 20, en ville, la personne lit. Depuis le mois de Ramadan, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été accepté par Allah. Ça c'est un dalil ala al-qaboul, qu'une personne, après un mois béni, il a istiqama, fermeté sur une chose, sur une action, ça c'est un grand cadeau de la part d'Allah. Nous aussi on doit souhaiter qu'Allah m'accepte, je dois souhaiter qu'Allah m'accepte, et une preuve d'acceptation c'est quand je commence une bonne action et je reste ferme dessus. Donc mes chers frères, prenons des résolutions. On avait l'intention de parler du 10 Muharram, mais bon, Inch'Allah, il y aura l'occasion, peut-être il y aura quelqu'un qui va faire quelques explications sur le 10 Muharram samedi, mais la seule chose qu'on doit retenir mes chers frères, que ça c'est un autre cadeau. On va dire que tout le temps un cadeau. Oui, tout le temps un cadeau, mais pas content donc. Hein, comme KGSTA ou des trucs comme ça. Si quelqu'un dit voilà, il y a tel mois, on va dire, il reprolonge encore un an, encore deux ans. Est-ce que quelqu'un va être jusqu'à quand le gouvernement donne nous l'argent? Là, Wallah, on est content, plus il donne, plus il prend. Si vous menez un chariot là-bas, nous un chariot, nous remplit. Qu'Allah donne, Allah Akbar, Allah il est karim, généreux, il donne. Et Hassan al-Basri, lui, Hassan al-Basri, rahimallah, il dit que. كلام عجيب إن الله افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام. الله a clôturé l'année par un mois sacré. C'était quoi le dernier mois de l'année? Dhul Hijja. On a expliqué les vertus de Dhul Hijja. Et Dhul Hijja, c'était quoi le cadeau qu'Allah nous a accordé? Le jeûne du jour de Arafat, avec les récompenses qu'il y a, le pardon des années de péché. Oui ou non? Cadeau de la part d'Allah. Et il dit que et Allah démarre l'année avec un autre mois sacré. L'autre mois sacré, c'est le mois de Muharram, qui est un des mois sacrés, un des mois les plus aimés par Allah Azza wa Jal. Et dans ce mois, qu'est-ce qu'Allah nous accorde encore comme cadeau? Le jeûne du 10 Muharram, avec comme récompense, hadith dans lequel le prophète Ali salat wa salam a été questionné par Abu Qatada, anna rajulan sa'alani wa sallam an siyami ashura faqala ihtasibu ala Allahi an yukaffira tassanata allati qabla, rawahu muslim. Une personne a demandé au prophète d'Allah, le jour de Ashura, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'Allah nous accorde? Parce que ça me dit que j'ai espoir que le mu'min qui va jeûner en ce jour, Allah Azza wa Jal lui pardonnera une année de péché. Si pour le jour de, comment on appelle ça? Arafat, on a eu déjà deux années de péché pardonné, il repardonne un, c'est pas grave, c'est Allah Akbar. C'est tout à notre avantage. C'est pardon sur pardon. Donc vraiment, et cette année, pour l'île de la Réunion, en métropole, apparemment c'est samedi le 10e, si on n'avait pas trouvé la lune ici, on est au bout du monde, on a trouvé la lune le lendemain, le 10 Muharram à la Réunion, ce sera dimanche. Hein, c'est bien ça, dimanche. Donc, subhanallah, il n'y a aucune excuse. On peut tous jeûner dimanche. D'accord? Et celui qui jeûne, il le fait en suivant la sunna du peuple de Moussa alayhi salam et la sunna du prophète sallallahu alayhi salam qui a dit que nous sommes plus proches de Moussa alayhi salam que les autres religions. Nous montrons notre attachement à ce prophète et nous faisons revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi salam avec espoir qu'une année de péché sera inshallah pardonnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans nos doigts, mes chers frères, nous n'oublions pas tous les musulmans qui sont opprimés dans le monde avec les problèmes qu'il y a au Proche-Orient ces derniers temps, le nombre de morts qu'il y a, nous voyons dans l'actualité, dans les reportages, des enfants, les bébés qui meurent, ça c'est effroyable. C'est vraiment, ça prouve vraiment l'injustice qu'il y a dans le dunya. L'injustice, le volm, l'oppression, mais ce volm-là a toujours existé. Et c'est une sunnah d'Allah, qu'il y ait des gens oppresseurs, qu'il y ait des gens opprimés. Comme le peuple de Pharaon, comme les gens avec Qarun, comme les gens de l'histoire d'Ashab al-Ukhdoud qui tuaient des mu'mines, qui les jetaient vivants dans le feu, qu'ils meurent vivants, hommes, femmes et bébés. Il y a toujours eu à toutes les époques de tels oppresseurs. S'il y en a à notre époque, il y en aura jusqu'au Qiyama, parce qu'il y aura bien des gens qui supporteront Dajjal. Qui va supporter Dajjal? C'est pas des virus informatiques, c'est bien des êtres humains. Donc des valim, il y en aura jusqu'à la fin des temps. Et il y a toujours eu des mazlum, des opprimés. Et Allah laisse parfois des gens opprimés, ceux qui ont la ilaha illallah, Muhammadur Rasulallah dans leur cœur, pour augmenter leur grade, pour leur faire goûter la position, le mawqif de celui qui a donné sa vie pour l'iman et pour leur accorder les plus hauts degrés dans le paradis. On demande qu'Allah leur vienne en aide et qu'Allah vienne en aide à tous les mu'mines et musulmans dans le monde entier, que ce soit en Palestine, que ce soit en Syrie ou alors des endroits du monde où ça n'est pas du tout médiatisé comme la Birmanie, des endroits où les gens sont pauvres. Donc quand un pauvre meurt, ce n'est pas comme un riche meurt. Allah musta'an. Et là nous voyons l'injustice, le décalage qu'il y a entre le discours ambiant qui appelle vers l'humanisme et la réalité des faits. Tout est dans les mains d'Allah. La seule chose que nous pouvons faire de notre côté, c'est avoir une pensée de nos cœurs pour eux et lever les mains et demander à Allah d'envoyer sa nusra d'envoyer son aide. On était un petit peu long cette fois-ci, mais c'est le début d'année. Qu'Allah nous accède un tawfiq de comprendre et qu'Allah nous accorde la santé cette année, Inch'Allah. Qu'Allah nous protège. Il y a tellement de maladies. On entend des gens qui ont eu tel problème cardiaque, tel problème et tout et tout. Tous les jours, on entend un problème. Celui-là, il a eu un cancer. Celui-là, il est en traitement. Celui-là, fait une attaque, etc., etc. Ça, ce sont des épreuves de la part des petits là. On doit demander à Allah protection. Et la meilleure solution pour être protégé de tout ça, c'est donner la sadaqa tout le temps. Pas rien que Ramadan, donner l'aumône, 1 euro par jour, 50 centimes, 20 centimes comme on peut, ça éloigne les choses mauvaises. Et lever les mains, demander à Allah protection. Qu'Allah nous accepte, nous protège et nous accorde le meilleur de ce qu'il y a dans cette année. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.